Au fil des pages.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Aujourd'hui, dans les prix décernés par l'Académie française, le Grand Prix de l'Académie française, Jonathan Little, Les Bienveillantes chez Gallimard, qui a aussi été couronné par le prix Goncourt. Ce livre est déjà entré dans la légende. Deux prix prestigieux, un auteur qui ne répond plus au téléphone, des centaines de milliers d'exemplaires vendus, des blogs qui en parle à toute heure du jour et de la nuit. Alors c'est toujours très impressionnant, évidemment. Et la première question qui se pose, c'est ce livre est-il intéressant ou n'est-ce qu'un phénomène de mode? C'est un météore. Ce qui sépare la mode de la littérature est sans doute l'écriture, bien entendu. Et Jonathan Little, qui est américain d'origine, témoigne d'une maîtrise de la phrase sans graisse et sans lourdeur inutile. Mais ce qui sépare la mode de la littérature, c'est aussi l'adéquation avec une époque. Or, ce livre reflète l'époque, la nôtre. Elle en est l'émanation. Il n'est pas sympathique. Il est même dangereux. Et nous nous en expliquerons. Mais il n'est pas sympathique comme en d'autres temps les liaisons dangereuses et Madame Bovary ne l'étaient pas. Il peut même par passage être franchement odieux. Mais si des jurés l'ont couronné, c'est que la littérature triomphe des modes et des salons. Car c'est de la littérature. C'est un des rares livres de littérature. Et l'une des raisons du succès du roman, c'est qu'on est là pour parler de vous et de moi. Little tend à nos turpitudes secrètes et supposées un miroir bienveillant, comme sont bienveillantes ces Euménides, qui sont les Érinies du culte du mythe grec, monstres du remords et de la vengeance attachés aux pas du criminel, en particulier, et ce n'est pas neutre, Dorès qui a tué sa mère. On s'apercevra au fil de livre que le bon docteur Howey a tué sa maman. Chez Little, rien n'est neutre, sauf le ton. Alors de quoi s'agit-il? Vous aurez remarqué que très peu de journalistes ou de jurés ont raconté l'histoire. C'est même curieux. On sait tout juste que ce monsieur Little, né américain, qui a écrit en français, qui a travaillé dans l'humanitaire, vous verrez que ce n'est pas anodin, nous narre à la première personne le quotidien de Max Howey, SS et bourreau ordinaire. Cela commence, peu de gens l'ont souligné, par les mots « frères humains », qui placent immédiatement le livre sous l'emblème du prince des voleurs et de la racaille, le poète François Villon, et la balade des pendus. Or, Little, on le verra, a une fascination pour les pendus. « Frères humains qui après nous vivez, n'ayez le cœur contre nous endurci, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. » Dès les premières lignes, nous voilà franchis. C'est de nous, de notre humaine nature, de notre zone obscure qu'il s'agit. Little écrit, et puis ça vous concerne, vous verrez bien que ça vous concerne. Ou encore, longtemps, on rampe sur cette terre comme une chenille dans l'attente du papillon splendide et diaphane que l'on porte en soi. Et puis le temps passe, la nymphose ne vient pas, on reste larve. Constat affligeant qu'en faire. Le suicide, bien entendu, reste une option. Mais à vrai dire, le suicide me tente peu. En 900 pages, Little suicide son lecteur. On est rarement plus franc dès le début du livre. Les cartes que nous tend l'auteur sont biaisées, biseautées. Vous êtes déjà épinglé, larve de papillon, ratée en sursis, insensiblement entraînée dans une histoire dont le héros n'est pas insensible à la jouissance, même si elle est trouble, à la pitié, même si elle est tueuse. Là, Jonathan Little joue sur du velours et sur nos culpabilités vagues, qui se traduisent la plupart du temps en haine contre l'autre. On se sent toujours plus ou moins le raté de quelqu'un ou de quelque chose, et il est rare qu'on en découvre la cause en soi. Pour l'allusion au suicide, comme dirait Nietzsche, combien d'entre nous n'ont-ils pas un soir décidé de se tuer pour tout simplement déchirer leurs photos ? Qu'on ne m'accuse pas d'aligner les références trop savantes. Une fois encore, les cartes sont biaisées, et je disais tout à l'heure que ce livre peut être dangereux, surtout si on n'a pas la culture, les références, les allusions, les allégories, l'immense bibliothèque présente dans la tête de Jonathan Little. Alors il y a Villon, bien sûr, mais il y a de nombreuses mentions aux philosophes grecs, dont un long plaidoyer pro-domo pour l'homosexualité d'après les philosophes grecs. Tout cela pour séduire quelqu'un, bien sûr. Un zeste de Schopenhauer, une pincée de Kierkegaard, du Nietzsche en creux, le Baudelaire des vers « Je suis la victime » et le bourreau, la plaie et le couteau, et ses allusions à la toccata, titre du premier chapitre, à la gigue, titre du dernier, en passant par les sarabandes, menuets, rondeaux, car notre docteur aime la musique, apprécie Bach, et fait venir des partitions de Rameau et de Couperin pour un petit Yakov de 12 ans, tué trop tôt pour devenir virtuose. Ou encore, il fait cette citation « J'ai passé les sombres bords » pour qui connaît le Styx. Ou alors, il discute en grec carrément avec Brasillac à Paris, histoire de nous rappeler que les beaux esprits français ne résistaient pas tous à la séduction de la haine. Il lit Plutarque, il se compare à Alcibiade. Mais ce qui frappe là, ce n'est plus le sommeil de la raison qu'il nous décrit, illustré par Goya avec ses monstres terribles. Ces monstres de la guerre. La guerre de Little, c'est au contraire la pointe extrême, l'apocalypse par la raison, poussée en ses développements ultimes. Quand elle est mise au service d'une idéologie perverse par définition, comme tout ce qui est systématique, une idéologie dépourvue à la fois de transcendance, mais aussi d'appétence pour la vie. Or, cette raison, cette mise à distance historique, philosophique, poétique de la réalité, qui est la plus belle parure de notre héritage grec, a été en effet, dans les idéologies du XXe siècle, dont certaines perdurent aujourd'hui ou se sont reconverties, cette raison donc a été tordue, pervertie, retournée, mise au service des bourreaux qui ne cessent de raisonner dans le livre de Little, d'argumenter, de ratiociner pour trouver tous les slogans de la haine capables de mettre dans les rues des centaines de milliers de Maxaouais pour égorger, poignarder, faire flamber. Sauf que d'ailleurs, Maxaouais ne tue pas lui-même, il constate, il espionne, il est de la sécurité au milieu des SS. Il n'est pas indifférent de savoir que le roman s'achève dans un bris de glace d'aquarium aux eaux de Berlin, ce zoo où s'ébattent nos ancêtres les poissons, certes, mais qui évoque le mot grec de zoé, la vie. Alors voilà que moi-même j'ai lu de l'histoire qui est pourtant intéressante et souvent inattendue. Celui qui a décidé d'écrire pour savoir s'il est encore capable d'éprouver quelque chose, sans remords, sans regret, est le fils d'un Poméranien et d'une Française. Contrarié dans ses études, qui est devenu docteur en droit en Allemagne, qui a passé son enfance en France, dans le sud, dans une pension religieuse. Et tout cela, on le découvre au cours du livre, dans une progression admirablement construite, avec des paliers admirablement ménagés. Il a été donc envoyé dans une pension religieuse en punition. Alors, on va trouver bien plus tard, en punition de quoi ? Je vous le dis tout de suite, c'est en punition d'avoir aimé un seul amour qu'il a perdu, son miroir, sa sœur jumelle, sa fusion, son inceste. Ce n'est pas une explication, ce n'est pas une justification de ce qui se passe dans tout le livre, c'est un contrepoint, et c'est là que Little est très fort. Il n'explique pas, il n'y a pas de psychologie ou de psychologisation. C'est comme ça. Ce Maximilien est donc nourri de haine. Une haine, il l'écrit d'ailleurs cette phrase extraordinaire, une haine triste collée à la tête. De haine contre sa mère, coupable d'avoir laissé filer le père, disparu lorsque lui-même avait 8 ans. Elle est coupable aussi, selon lui, de l'avoir séparé de sa jumelle, du nid douillé, de la chaleur du ventre, tout simplement en accouchant. Sa mère n'aurait pas dû accoucher. Puis, en les envoyant, lui chez les pères, elle chez les sœurs, la petite chez les sœurs, pour payer pour leur crime, au fond. Alors, comme dans beaucoup de gens qui tournent au totalitaire, c'est l'autre le coupable. Ça n'est jamais bien sur soi. On projette, on intervertit. C'est cet homme-là, Maximilien Haue, qui est devenu Obersturmbannführer SS, quelque chose comme lieutenant-colonel, chargé de la sécurité et de l'espionnage des troupes au front de l'Est. Il atterrit en Ukraine, où il voit les massacres accomplis par les commandos Petliura sous le nez favorable des Allemands. C'est là qu'il touche, non sans dégoût, son premier cadavre. D'ailleurs, jusqu'au bout, il sera affligé de vomissements, ce qui pourrait prouver qu'il a une âme. Les bourreaux vomissent leur âme. Il sauve même un juif, par hasard, recueilli par un dominicain des Arméniens. Et là où il vous entraîne insensiblement dans son parcours, là où le livre est pervers, dangereux, c'est que le docteur Haue n'est pas sympathique, mais il est empathique. Il empathe. De plus, il ne tombe pas dans tous les abrutissements donnés par la propagande. Il ne croit pas, par exemple, à la théorie du sous-homme. Il pencherait plutôt pour celle du jeu de miroir entre Allemands et Juifs, par exemple. Et c'est là qu'on commence à être gagné par autre jeune sentiment très, très, très ambigu. Pour Haue, les Allemands sont animés par l'idée de la nation, les Juifs par celle du peuple. Et c'est là qu'il se retrouve, parce qu'il dit « tant qu'un seul vivait, Israël vivait ». Eh bien, c'est la même chose. L'Allemand se sauve en tuant les Juifs. Enfin, c'est du moins la raison pernicieuse donnée. Et cette fascination du raisonnement qui se tient, mais dont les prémices, ne l'oublions pas, sont absurdes, c'est ça la perversion, nous donne un sentiment d'horreur douceâtre. Malheureusement, on n'arrive pas à échapper aux phrases de Littell, et vous allez voir bientôt comment. Alors, quand il parle donc des Allemands et des Juifs, il dit « c'était sans doute pour ça qu'ils étaient nos ennemis privilégiés. Ils nous ressemblaient trop. » Avec ces raisonnements bizarres, on se retrouve au fond dans un roman noir talmudique. Et ce n'est pas le moins troublant. On multiplie les arguties, les réponses, on pose des problèmes. C'est la nature du problème qui est incroyable, au sens propre du mot. Mais on ne s'en aperçoit guère au fil des pages. On tombe dedans. Lui-même garde des distances avec les choses. Par exemple, il rencontre Heydrich. Et c'est là que c'est menaçant, parce qu'il ne nous est pas sympathique, c'est pas le mot, mais... c'est un homme comme nous. Il rencontre des gens, il en pense des choses, pas nécessairement, il n'adhère pas nécessairement. Donc il rencontre par exemple Heydrich, dont il trace un portrait incroyable, avec ses mains qui paraissaient trop longues, comme des algues nerveuses attachées à ses bras. Il retrouve, sur le front de l'Est, un vieil ami, Thomas, qui le suit comme une sorte de mauvais génie un peu bénet tout au long du livre. Et on retrouvera ce Thomas à la fin. Puis il est impliqué dans un crime homosexuel et il est interrogé. On s'est aperçu que non seulement c'est la perversion, mais aussi c'est le roman de l'inversion. Et lui-même emploie le terme d'inverti, qui est un peu déçu aujourd'hui. Donc il plaide l'inversion. Alors quand il est interrogé, par exemple, ça c'est un exemple du style et de l'humour glacé de Littell. L'officier de police chargé de l'interroger dit « Mon confrère de la police criminelle, Halbey, vous prend pour un paragraphe 175. Êtes-vous un paragraphe 175 ?» Cela me semblait une question réelle et je répondis franchement « Non. » À plusieurs reprises est abordé dans ce livre le lien obscur entre homosexualité et pulsion totalitaire. Et c'est encore une sorte de livre dans le livre ou au cœur du livre. Depuis l'enfance, nous dit Haue, il est hanté par la passion de l'absolu et du dépassement des limites. Et donc il se retrouve là à les satisfaire dans le mal. Il revendique seulement de s'y engouffrer à la différence des autres, les yeux grands ouverts, en cherchant à comprendre, en y mettant de la raison. Et l'on retrouve toujours cette terrible raison. Il avoue qu'il est parfois étonné, parfois horrifié, mais il porte son point d'honneur, si l'on peut dire, à rester calme, comme il dit. Il est, il le dit, la caméra, l'homme qu'elle filme, et aussi l'homme qui étudie le film. Donc les sentiments qui font de l'humanité ce qu'elle est, et qui en général sont tournés vers l'épanouissement de l'humanité, l'absolu, la curiosité, sont une fois de plus détournés, dépravés. Pour Haouet, nous l'avons dit, tout se raisonne, et à ces raisons que la raison connaît, contrairement aux élans du cœur, que la raison ne connaît pas. Et voilà que peu à peu nous entrons dans ces raisons. Il écrit « Si les terribles massacres de l'Est prouvent une chose, c'est bien paradoxalement l'affreuse, l'irrésistible solidarité de l'humanité. » Il va même jusqu'à dire que plus l'assassin est brutal, plus il a pitié au fond de cet enfant qu'il assassine et qui lui rappelle les siens, donc il essaye de lui éviter de souffrir. Vous voyez le spécieux du raisonnement. Haouet accompagne les massacreurs, assiste aux exécutions, rédige les rapports. Il écrit « Von Radetzky nous avait expliqué qu'il fallait raisonner en termes de menaces objectives, démasquer chaque coupable individuel étant une impossibilité matérielle, il fallait identifier les catégories sociopolitiques susceptibles de nous nuire et agir en fonction. » Cette phrase s'entend encore très couramment dans la bouche de tel ou tel chef d'insurrection théorique ou pratique. C'est dire la modernité de Littell. Nous allons continuer dans un moment. Nous interrompons, nous faisons une petite pause et nous allons revenir sur le livre de Jonathan Littell, Les Bienveillantes chez Gallimard. Nous revenons au livre de Jonathan Little, Les Bienveillantes, chez Gallimard. Nous sommes restés sur le front de l'Est et, après trop d'horreurs finalement, trop d'horreurs méticuleuses et raisonnables, on croit avoir compris. On croit pouvoir sauter des pages. Mais il advient toujours un incident auquel on ne s'attend pas qu'éveille un sentiment nouveau. Car c'est là le diabolisme de Little, il est en train d'éveiller en vous des sentiments, sinon inconnus, du moins oubliés, cachés, auxquels on ne s'attend pas en le lisant. Tout cela s'apparente un peu à un parcours de psychanalyse. Vous savez, quand le psychanalyste vous dit le rêve, tous les personnages du rêve, c'est ton histoire, c'est toi, c'est chaque face de toi. Eh bien, c'est pareil pour mon histoire, dit Little. Les divers niveaux de lecture se chevauchent, s'enrichissent, vous enchassent. Chaque fois qu'on va quitter le livre, parce qu'on se dit que c'en est trop, l'auteur vous rattrape et attention, tu pars parce que tu te reconnais. C'est de toi que je parle, tu ne supportes plus. Alors il sort des bottes secrètes, des choses toutes simples, où soudain l'on se reconnaît et on reste, on continue. Il écrit « Je vis, je fais ce qui est possible. Il en est ainsi de tout le monde. Je suis un homme comme les autres, je suis un homme comme vous. Allons, puisque je vous dis que je suis comme vous. » Il a dû en rencontrer, Little, sur le front de l'humanitaire, des gens qui pouvaient dire ça. Mais, par endroits, il laisse aussi percer la haine qui habite justement, qui hante cette perversion du livre. Il dit par exemple cette phrase assez extraordinaire « Si vous arriviez à me faire pleurer, mes larmes vous vitrioleraient le visage. » Ce qui rappelle le vers de Julius Evola, le conseiller de Mussolini et hindouiste renommé, qui a écrit « Chevaucher le tigre » par exemple, et qui siégeait avec Ezra Pound au ministère de la race, et qui dans un poème écrit « Nous sommes des assassins aux mains carbonisées qui ont voulu attraper le soleil. » Alors voilà. On reste pris au piège de ce roman. On vit le glissement insensible vers le monstrueux. Puis alors, le plus surprenant de tout ça, c'est que ces gens-là ont une morale, parce qu'ils seraient amoraux, encore, on aurait marre. Mais non, ces gens-là ont une morale. Quand des pogroms, on passe à l'extermination finale, parce que les pogroms, si on peut dire, c'est sporadique. Et puis, il y a la politique d'extermination finale, qui est une politique mise en œuvre avec l'extermination de 3 millions de Juifs sur le front de l'Est. Et puis voilà, l'ordre est donné. Et tous ces officiers se récrient « Mais nous sommes des pères de famille ». Alors, leur chef raisonne à nouveau. Est-ce la faute des Allemands si l'on a hérité de 3 millions de Juifs, Russes ou Polonais, à cause des traités antérieurs? Bon, qu'en faire? Tuer ou être tué, se défendre comme on le fait, ou bien battre sa culpe, faire contrition, se faire assassiner en justifiant raisonnablement l'assassin. Telle va être la question du tournant du millénaire, avec ce côté noir ou blanc, on tue ou on vit, et aujourd'hui encore qu'on essaye de nous poser de cette manière. Alors, cet Aoué, il est tout à fait dans l'histoire, puisqu'il vit Stalingrad, il y est blessé à la tête, il rencontre Eichmann et le gratin de l'Action française, dont Rebattet ou Lucien Destouches, qui n'est pas encore Céline. Mais il n'est pas étonnant qu'on ne s'attarde pas en général sur la grande histoire, car les scènes à couper le souffle, c'est celle de la pendue, cette jeune fille que tous les hommes embrassent avant de la pendre, et quand Aoué s'approche d'elle, son regard le liquéfie. Puis après, il y a en pendant beaucoup plus tard à cette image la scène de la sœur qu'il a retrouvée, qui s'est jetée d'un balcon et qui a le cou tordu dans la neige. Il y a aussi, et voilà, l'art, si l'on peut dire, de Little. Cette scène, à un moment où il y a des massacres au bord des fosses en Ukraine, et il y a une petite fille de 4 ans qui, pendant qu'Aoué contemple la scène, puisque lui, il se contente d'enregistrer, ne l'oublions pas, la petite fille lui prend la main avec confiance, comme un adulte qui peut la protéger. Et puis, il se baisse, et puis machinalement, il lui dit « Où est ta maman ?» Elle désigne la fosse des massacres, où on continue à massacrer, bien sûr. Alors il lui parle un peu, elle lui sourit, et puis il la tend à un massacreur et dit « Sois gentil avec elle !» Et il part dans la forêt. Ce sont des scènes comme ça qui vous coupent le souffle et qui en disent plus long que de longues histoires. Alors, au tout début de ce roman à la première personne, nous avons appris que Max Haüy, qui a échappé à l'Allemagne, puisqu'on a commencé par la fin, au fond c'est un énorme roman de flashback, Max Haüy a échappé à l'Allemagne en volant un uniforme du STO, a pu gagner la France et s'est reconverti dans la dentelle. Puisqu'il a trouvé par hasard des métiers à dentelle et donc voilà, il est devenu industriel de la dentelle. Et il y a une précision extraordinaire sur la dentelle que l'on traite avec du graphite noir, puis qu'on blanchit. Ce qui est un autre passage tout à fait intéressant et étonnant. Il y en a beaucoup, on les énumérerait tous. C'est dans les détails, le diable est dans le détail. Alors Max Haüy, sur le tard, a pris une femme de bonne famille, lui a fait des enfants et vit dans le nord de la France. Et parfois, dit-il, il renoue avec ses anciennes mœurs et s'offre un beau garçon. Mais alors il écrit « Tout cela a perdu beaucoup de son intérêt pour moi. Le corps d'un beau garçon, une sculpture de Michel-Ange, c'est pareil. Le souffle ne vient plus à me manquer. C'est comme après une longue maladie, lorsque les aliments restent sans goût. Alors manger du bœuf ou du poulet, quelle importance? Il faut se nourrir. C'est tout. » Voilà un exemple de l'humour de Jonathan Little. Si c'est de l'humour. Littell a lu Camus, mais il se situe bien au-delà de l'absurde, dans les zones de l'inhumain auxquelles notre siècle accoste. Foin des beaux esprits qui se récrient et sombrent dans le pathos et le psychologique, fournissant à l'inhumain ses idiots utiles. L'une des forces du livre, on l'a dit, est qu'il n'y a pas là la moindre once de psychologie, sauf peut-être dans la gémellité, puisqu'il est un jumeau qui est un mystère en soi. Enfin, tous les jumeaux ne sont pas incestueux. Tous les enfants n'ont pas rêvé, comme M. Haüy, de faire exploser les autobus. Et je vous conseille le passage qui est d'ailleurs au début du roman pour comprendre un peu ce qui se passe dans les banlieues parisiennes d'aujourd'hui ou d'ailleurs. Tous les adultes n'ont pas massacré à la hache en état de dédoublement leur mère, leur beau-père, leurs enfants, puisqu'ils retrouvent des petits jumeaux nés de l'étreinte interdite avec sa sœur. Tout au long du livre, d'ailleurs, des policiers recherchent l'auteur qui a tué sa mère et son beau-père, enfin dans la deuxième partie du livre. Alors pourquoi les a-t-il tués finalement et dans un état second, on ne le saura pas, comme il ne le sait pas d'ailleurs lui-même. Comme on ne sait pas pourquoi il tue à la fin du livre Thomas, ce copain de toujours qui lui a fourni les moyens de la fuite. C'est le coup du scorpion qui pique la grenouille. Parce que c'est dans ma nature, dit-il. On ne sait pas non plus pourquoi il assassine un amant, un ancien amant qui le poursuit dans les toilettes bien sûr, où se passent souvent les scènes et où Haüy trouve refuge même dans les rêves. On continue le livre et il va se passer un rebondissement tout à fait incroyable. Quelque chose qui contredit tout ce qui précède, vers la page 880. Nous allons vous retrouver dans quelques minutes avec le livre de Jonathan Little, Les Bienveillantes, chez Gallimard.
La médiathèque de Canal Académie, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme? Vous avez apprécié cette émission? Vous aimeriez réentendre cet académicien? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Académie. Le téléchargement est gratuit.
Nous nous retrouvons avec Les Bienveillantes de Jonathan Little chez Gallimard. On a attendu 880 pages, nous l'avons dit, dans ce livre de près de 900 pages, pour arriver à la dernière partie intitulée par Little la gigue. Max Haüy est dans le bunker, c'est la fin de la guerre. Il y est sur les ruines, ou plutôt sous les ruines du monde, et le Führer s'apprête à le décorer. Alors il est tout au bout du rang, il le voit s'approcher, et soudain, ce petit bonhomme au teint jaune qui le décore, qui lui arrive à l'épaule et pue du bec, le dégoûte, et voilà qu'il lui tord le nez. Max Haüy tord le nez du Führer. après 880 pages d'horreurs diverses et variées. Là, on entre dans un autre livre, la farce, la gigue, cet air de violon sur lequel gambadent gigolos et gigolettes. Mais on n'entre pas vraiment dans un autre livre, puisque ça se passe à la fin. Si l'on ne connaît pas les allusions, si l'on prend ce livre au premier degré, on le comprend aussi peu qu'un livre de Dostoïevski sans la dimension théologique. Il y a dans le livre de Littell les Euménides, mais il y a aussi les parques, les infirmières qui accueillent les malades qu'on doit gazer et les font déshabiller, les médecins qui les examinent et les conduisent à la chambre, l'ouvrier qui administre les gaz, ceux qui nettoient, le policier qui dresse l'acte de décès. Qui est coupable ? Celle qui tisse le fil ou celle qui rompt le fil ? Tous ou personne ? Littell écrit, je pense qu'il m'est permis de conclure comme un fait établi par l'histoire moderne que tout le monde ou presque, dans un ensemble de circonstances données, fait ce qu'on lui dit. Et excusez-moi, il y a peu de chances pour que vous soyez l'exception, pas plus que moi. Il y revient à plusieurs reprises. Pour les Russes aussi, ces braves pères de famille souvent cultivés, qui avaient déporté les koulaks, affamé la paysannerie ukrainienne, réprimé et fusillé les Hongrois. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous ne sommes pas jetés dans ce livre comme dans le monde sans signe de notre Sartre national où l'existence préexiste à l'essence. D'ailleurs, Littell a traduit Sartre comme Genet, et il y a quelques échos de Jean Genet là-dedans. C'est bien plus tordu que ça, et pour tout dire, plus pervers. Ce livre est d'ailleurs la perversion même, un chef-d'œuvre de perversion et d'inversion, à tous les points de vue, le sexuel étant le moindre. Et c'est là aussi qu'il colle à notre siècle et à celui qui l'a précédé, dans la mesure où ce sont des siècles chantres de la frigidité et du contre-pied de la lettre. La langue de bois, la pensée unique, le « good as you », aussi bien que « toi », qui est le sens véritable des trois lettres du mot « gay », n'en sont que des épiphénomènes. Jonathan Littell plonge au cœur des abysses, noirs, froides, liquéfiés. Geneviève de Gaulle, quand elle évoquait sa détention dans les camps nazis, ne disait-elle pas qu'elle n'avait jamais cessé de croire, mais qu'elle se trouvait en quelque sorte avec les autres, dans le dos de Dieu. Jonathan Littell habite ces contrées-là, dans le dos de Dieu. Et puis, il ne faut pas oublier que son héros, si l'on peut dire, Max Haway, s'en sort, contrairement au damné de Visconti, que le livre évoque un peu. Il s'enfuit, il se reconvertit et il vit tout à fait bien ces dernières années, il écrit fort bien, etc. etc. Alors, Littell, ce qui est intéressant, il démontre le mécanisme même de l'univers totalitaire dans lequel nous vivons. Les prémices sont fausses, le développement impeccable, le raisonnement imparable. Les prémices sont fausses, on l'oublie toujours. Dès le départ, on parle sur le mode du raisonnable. Par exemple, nous dit Littell, et puis ça, mon Dieu, pourquoi pas, je suis resté de ceux, enfin c'est Haway bien sûr qui dit, je suis resté de ceux qui pensent que les seules choses indispensables à la vie humaine sont l'air, le manger, le boire et l'excrétion, et la recherche de la vérité. Dès le départ s'enclenche le mécanisme du mal, car le mal est raisonnable et même raisonneur. Il suffit d'ouvrir sa télévision. On fait son travail, fût-ce de terroriste, de brigade rouge, de bandabadère. On raconte plus tard comment on s'est trompé, voire reconverti, et l'on vend ses droits d'auteur. Notre docteur Haway ne fait guère autre chose. Contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les fous qui entraînent les peuples vers l'abîme, ce sont les raisonneurs. Le docteur Haway n'est qu'un de ces petits Caligulas à qui l'on a donné le pouvoir impuni de mal faire, comme écrivait Camus. Il adore ça, et voilà tout. Et puis, autre paramètre de l'univers totalitaire dans lequel nous vivons, la famille. Faute d'aimer sa famille, à qui on le reproche absolument tout ce qu'on est, bien entendu, y compris l'inconvénient d'être né, comme dirait Sioran, eh bien, faute d'aimer sa famille, on se raccroche à une famille politique et il ne faut pas faire de peine à cette famille. Il ne faut pas désespérer la famille. On en fait partie. Et voilà comment aussi le mécanisme totalitaire s'enclenche. Les ombres tutélaires des bienveillants Styron, dans Le choix de Sophie, Aksionov, dans Saga Moscovite, Malaparte, dans Tu es morte, vieille Europe, et de bien d'autres, il y a Stendhal, il y en a d'autres, traînent dans les parages. Mais le ton froid, frigide, méticuleux, voire pinailleur, sans psychologie et sans transcendance, au cœur des questions théologiques les moins ragoûtantes, appartient en propre à Jonathan Little. Quand on le lit, on ne pense jamais aux anecdotes qu'on a pu lire sur sa vie, et Dieu sait si elle prolifère ces derniers temps, sur son papa, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient, sur la photo de femme pendue dans la neige qui a déterminé, dit-on, ses recherches, sur son origine juive, qui ajoute d'ailleurs à ce sentiment écœurant qui nous gagne, cette espèce de fascination étrange et encore une fois dangereuse tant qu'on n'a pas le recul de la culture. Puis on peut se demander même d'ailleurs si c'est au premier ou au deuxième degré. Mais tout s'est transmis en écriture et tout cela vient de bien plus loin, de cette zone où règnent les bienveillantes envoyées par les dieux. Car les dieux sont dans les parages, même si règne le diable, le singe de Dieu, selon Maître Eckhart. Un livre est grand quand il dépasse l'auteur et lui échappe, et que tout lecteur peut se l'approprier. Tel est cet ouvrage que l'on pourrait hésiter à taxer de roman. Pour Action contre la faim, Jonathan Little apparaît-il diriger des missions en Bosnie, à Grozny, en Afghanistan, en Chine, au Rwanda, au Tadjikistan, en Guinée. Ce n'est pas le premier écrivain qui ait exercé ses talents ou relents dans l'humanitaire. Christophe Ruffin, par exemple, a écrit des livres joyeux et terribles, flamboyants. Mais Little est le premier qui donne le « là », puisque nombreuses sont les allusions à la construction musicale. Donc il donne le « là » à une littérature humanitaire qui concerne l'humanité. Potion amère, médication de choc en ce début du XXIe siècle. Avec toutefois un vague sentiment de honte, il écrit « comme du sable qui crisse entre les dents » et Little ajoute « les mots non plus ne servent à rien ». Ils disparaissent comme de l'eau dans le sable, et ce sable emplit ma bouche. On peut donc comprendre que Little ne réponde pas au téléphone en sortant de ce livre dont on a énormément de mal en tant que lecteur à se dépêtrer, si l'on peut dire. Lui-même a vécu une dizaine d'années dans cet univers, dans le dos de Dieu. Mais c'est avant tout un chef-d'œuvre littéraire, avec des portraits, nous l'avons dit, d'une plume inspirée, mais aussi des descriptions de paysages comme celle-là, une parmi d'autres. C'était maintenant la steppe ukrainienne, une immense prairie ondulante, intensivement cultivée. Dans les champs de blé, les coquelicots achevaient de mourir, mais le seigle et l'orge mûrissaient, et sur des kilomètres sans fin, les tournesols dressés vers le ciel suivaient de leur couronne dorée la trajectoire du soleil. C'était le Grand Prix de l'Académie française, Jonathan Little, Les Bienveillantes, paru chez Gallimard.